merci aux questions. J'ai commencé par en poser une, donc qui vient de Reims. Quelles sont les causes de refus de qualification?
Alors, donc, un cas qui est donc un dossier facile à évaluer et qui ne pose aucun problème, c'est quand il y a une formation en informatique, un enseignement en informatique et de la recherche en informatique. Les cas qui peuvent poser problème, c'est quand il y a quelque chose qui manque. Alors, soit aucune activité d'enseignement et aucune activité d'enseignement non motivée. Ça m'est arrivé d'avoir des dossiers où le candidat exprimait clairement qu'il n'était pas intéressé par l'enseignement. Voilà, ça pose question par rapport à une vocation d'enseignant-chercheur. Donc, dans ce cas-là, voilà, faut pas se tromper de métier. Donc ça, c'est une première chose. Après, il y a des refus de qualification qui peuvent être liés à des résultats insuffisants au niveau recherche. Alors, l'idée, c'est qu'il faut pouvoir avoir au moins une publication de bon niveau dans une conférence ou dans une revue d'audience internationale. Si ça n'est pas le cas, les dossiers sont vraiment examinés avec soin. Voilà, on essaie de regarder si globalement ça fonctionne. Après, le dossier, c'est un tout. Il y a des choses qui peuvent s'équilibrer. Mais je dirais que les cas de refus de qualification qu'on a pour maître de conférence, c'est vraiment soit une grosse lacune au niveau enseignement, soit un souci au niveau des publications, ou alors un dossier très très mal fait qui ne nous permet pas de trouver ces informations. Donc ça, malheureusement, ça arrive aussi. C'est pour ça qu'au niveau du CNU27, il y a eu un gros effort pour indiquer toutes les pièces nécessaires et les points qui étaient évalués. Donc il faut prendre le temps de bien lire ça, et en général, les dossiers qui méritent d'être qualifiés, ils le sont. Donc voilà, on essaie de faire attention.
Si quelqu'un n'a pas fait d'enseignement, parce qu'il n'a pas fait d'enseignement, point, il n'y a pas de bonne raison, est-ce que ça suffit à le disqualifier?
Ah, ça peut être bloquant. Oui, s'il n'y a pas d'élément qui montre sa motivation, oui, là c'est clairement bloquant. Parce qu'on se dit que l'objectif, c'est aussi d'aider les candidats à un moment où ils peuvent s'interroger sur leur carrière. Et dans ce cas-là, ça peut être peut-être qu'il est pertinent pour eux de s'interroger sur une carrière plutôt en tant que chercheur. Mais en fait, alors oui, une chose importante aussi, c'est que sur le site Galaxy, quand les candidats demandent une qualification, en même temps que le résultat, il y a quelques explications. Et ça, souvent, les candidats ne le savent pas et ils ne vont pas voir sur le site. Et normalement, dans ces explications-là, ça donne une idée de ce qui a été la raison de la non-qualification.
Francis ?
Alors, donc, on a une petite question qui est posée localement et qui rejoint un peu celle de Grenoble. C'est, puisqu'il est possible de se porter candidat avant l'obtention du diplôme, est-ce que c'est possible du coup d'avoir un poste de maître de conférence sans avoir fait d'études postdoctorales ou d'ATER?
Alors, au niveau du calendrier, ça dépend. En fait, ça dépend de votre contrat. Si vous avez par exemple un contrat doctoral, souvent le contrat doctoral il court d'octobre à octobre. Donc là, mettons, soit vous soutenez votre thèse avant la fin de votre contrat doctoral, donc en moins de 3 ans, c'est quand même statistiquement assez rare, hein, auquel cas oui, vous pouvez dans ce cas-là, si vous soutenez avant le mois de décembre, vous pouvez directement candidater à la qualification et à un poste. Ce qu'on voit le plus souvent, ce sont des candidats qui font leurs 3 ans de contrat doctoral et qui, à partir du mois d'octobre, ont besoin d'un financement pour pouvoir aller jusqu'à leur soutenance. Et dans ce cas-là, ils sont soit ATER, soit postdoc. Et donc, ils ont cette année forcément. Donc, bien souvent, il y a au moins une année entre la fin du contrat doctoral et l'éventuel recrutement maître de conférence. Mais par contre, ça n'est pas du tout une obligation. Quelqu'un qui n'a pas, qui s'autofinance à la limite sur la fin de sa thèse peut tout à fait candidater sans avoir été ni ATER ni postdoc.
D'accord. et du coup, une petite reine qui demande, et ça revient un peu par rapport à ce que je disais, c'est du coup, comment est-ce qu'on compare ATER et postdoc? Est-ce qu'il y en a un qui a plus de poids que l'autre ou bah, ça dépend?
Non, pas du tout. Et justement, en fait, c'est une question de, d'équilibre personnel, d'abord d'envie. Je pense vraiment que enseignants-chercheurs et chercheurs sont deux métiers différents. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on est plus exigeant, qu'on est exigeant sur la partie enseignement, parce que je pense que ce sont deux métiers différents. Et c'est important, quand on veut devenir maître de conférence, d'avoir la volonté d'enseigner, parce que sinon, sinon on en souffre toute sa carrière. Donc ça, c'est important. Et après, ça dépend de la volonté de chacun. Donc si c'est quelqu'un qui a envie de faire de l'enseignement, il vaut mieux aller vers ATER. Mais en prenant garde à garder quand même un dossier de publication suffisant. À l'inverse, si c'est quelqu'un qui préfère consacrer un an ou deux à faire plus de recherches, c'est très bien. À condition pareil, d'être vigilant, soit avoir suffisamment fait d'enseignement par le passé pour avoir des heures, on va dire, d'expérience, soit pour faire des vacations, pour ne pas se retrouver à candidater maître de conférence sans jamais avoir fait d'enseignement.
D'accord. Donc du coup, c'est vraiment les aspirations de chacun.
Oui.
Plutôt que y en a, les deux sont jugés identiquement dans une...
Dans une candidature, tout à fait.
Okay.
Aussi, alors, oui.
Je pense qu'il y a une question implicite qui est-ce que j'ai une chance d'avoir un poste si j'ai pas un postdoc?
Oui, alors j'en suis un exemple vivant. Moi j'avais choisi pour le coup d'être ATER à l'époque parce qu'au départ j'avais choisi ce métier pour l'enseignement. En tout cas c'était pour moi quelque chose de très important. Après, ce qui est vrai quand même, c'est que les endroits où on va candidater en tant que maître de conférence n'ont pas tous les mêmes critères de recrutement. Et je pense que ça, c'est important aussi. Le quotidien d'un enseignant-chercheur dans une université, dans un laboratoire par exemple, qui est associé à, enfin, qui est UMR, CNRS, n'aura pas forcément le même quotidien qu'un enseignant-chercheur qui travaille dans un IUT. Il peut y avoir des charges d'enseignement, des charges administratives qui sont plus lourdes dans un IUT. Donc voilà, je pense que ça c'est important aussi. Il faut savoir ce qui nous motive dans l'enseignement et la recherche. On a le droit de se sentir plus enseignant que chercheur ou l'inverse, en sachant que la mission nous demande de faire les deux. Mais après, il faut choisir ce qui correspond le mieux à son profil. Et au niveau des recrutements, il y a des endroits où on cherche plutôt des gens profil chercheur, et il y a des gens où on a besoin de gens qui sont aussi enseignants et prêts à relever des défis administratifs sur l'enseignement. Donc je pense qu'il y a vraiment de la place pour les deux profils.
Okay, merci.
Une question qui est un petit peu reliée à ça. Donc statistiquement, quelle est la durée moyenne après la thèse, entre la thèse et le recrutement?
Alors ça, j'ai pas ces choses-là. Je l'ai pas. Parce que mon quotidien, effectivement, c'est l'enseignement, la recherche, les tâches administratives. Par contre, sur les sites que je vous ai indiqués, il y a quand même pas mal de statistiques. Alors, ce que je peux vous dire, donc, si je reviens sur les statistiques du CNU, c'est que par exemple, en 2017, il y a eu 32 demandes de requalification. Donc, ça veut dire que il y a 32 candidats qui ont été qualifiés il y a 4 ans et qui redemandent une qualification au bout de 4 ans. Donc manifestement, qui n'ont pas forcément eu de poste. Donc c'est compliqué. Je ne sais pas. Et puis les statistiques, elles peuvent masquer des choses très très différentes. Il y a des gens qui choisissent au bout de quelques temps de partir faire autre chose. Il y en a qui vont continuer longtemps à candidater. Donc ça, je ne suis même pas sûre qu'un chiffre là-dessus serait très très parlant.
Ok, alors, après une petite question qui m'interroge, ça nous vient de Nancy, où il demande si ça vaut le coup de passer l'agrégation après la thèse. Et moi, je rajouterais tout d'abord, est-ce qu'il y a une agrégation en informatique?
Non. Alors, c'est bien une spécificité de la discipline informatique, c'est qu'on n'a pas d'agrégation d'informatique. Donc, c'est à la fois bien, pas bien, enfin, il n'y a pas d'avis là-dessus. C'est vrai que ça ne permet pas à des titulaires de l'agrégation de partir vers l'enseignement secondaire, comme c'est le cas dans d'autres disciplines. Voilà, mais donc non, ça n'existe pas. Alors il y a un CAPET en gestion, je crois, option informatique, qui permet de recruter des enseignants en IUT, mais il n'y a pas d'agrégation pure informatique.
Enfin, on espère pouvoir dire qu'il n'y a pas encore d'agrégation d'informatique. Donc la CIF ne désespère pas d'y arriver. Ce qui est clair, c'est qu'il y a des changements profonds dans l'organisation des lycées, qu'il va y avoir un enseignement sérieux d'informatique en première et terminale, et que donc il y aura de la place pour des enseignants d'informatique. Ça peut, c'est pas encore une voie, mais ça peut devenir une voie intéressante si vous n'avez pas envie d'aller travailler dans le privé.
Ça, c'est une très très bonne chose, et puis ça peut permettre aussi. Pour des candidats qui sont plus attirés par l'enseignement que par la recherche, d'avoir un métier 100% enseignant. Ouais. Donc ça, ce serait très bien, oui, tout à fait.
Alors, après, une petite question sur les thèses CIF. Notamment, quel est le taux de thèses CIF en qualification et quel est leur taux en réussite en obtention du coup d'un poste de maître de conférence?
Alors là, c'est un chiffre que je n'ai pas. Alors je ne sais pas si à Grenoble, la présidente de section est là. Je ne sais pas du tout si c'est une statistique qu'on a eue.
Est-ce que vous regardez le fait que c'est un chiffre ou pas dans le critère?
Alors on le sait, parce que c'est regardé, mais en fait, le critère va être le même que pour les autres. Donc, alors on sait que beaucoup d'étudiants qui sont en thèse CIF ont plus difficilement la possibilité d'enseigner. Néanmoins, on voit la différence entre les dossiers. Il y a certains étudiants en CIF, on sent qu'ils n'ont pas vraiment envie d'aller vers l'enseignement supérieur et la recherche, et ça se sent dans le dossier. Et ceux qui ont envie, en général, ont réussi à faire ou des quelques vacations pendant leur contrat, et ceux qui n'ont pas le droit l'ont fait pendant l'année justement intermédiaire dont on parlait. Donc en général, et quant aux publications, il y a beaucoup de tests CIF, le niveau de publication est souvent très bon aussi. Et pour être qualifié, c'est une publication de bon niveau. Donc ça, je pense que si j'ai pas cette statistique en tête, c'est aussi parce que c'est pas quelque chose, ils sont pas du tout pointés du doigt.
Ouais, je crois que du coup on a la personne que vous interrogez à Grenoble, donc on va lui passer la main du coup.
Les microphones de tous les participants sont coupés. The microphones of all participants are cut.
Bénédicte, tu m'entends? Bénédicte, est-ce que tu m'entends? C'est bon? Peut-être que je parle tout seul. Bonjour à tous, bonjour Bénédicte, merci de m'avoir fait cette présentation. Nous on a un écho dans la salle, vous ça va? Vous m'entendez correctement? Très bien. Donc sur la question des contrats CIF, Bénédicte a très bien répondu en disant que on ne va pas distinguer les comptes. Alors on peut avoir ces statistiques, en général je les présente en début de session pour les rapporteurs. Je ne peux pas vous donner le nombre exact, mais de mémoire c'est peut-être 5%, enfin c'est finalement peu de candidats. Ce qui me fait penser qu'ils vont surtout se présenter peut-être à des postes dans les entreprises, plutôt qu'à des carrières académiques. Alors je suis désolé, j'ai pris la parole, je ne me suis pas présenté, je suis Annie Fontambler, présidente du CNU27 pour la 8e et dernière année. Pour une autre question, je vais revenir sur une autre question qui a été posée, pour compléter un peu la réponse de Bénédicte, qui était sur les refus de qualification. Parce que Bénédicte, il me semble qu'il y a quand même un lot de candidats qui ne sont pas qualifiés, qui sont ceux qui essayent de venir mordre sur la section 27 alors qu'ils n'y sont pas, qui essayent de venir mordre sur l'informatique alors qu'ils ne sont pas informaticiens, ni dans leur formation, ni dans leurs travaux de recherche, ni dans leur publication. Alors on appelle ça des candidats hors section, mais ils font partie des refus de qualification. Voilà, il me semble que cela faut aussi les citer parce que ils font quand même partie d'un bon nombre de refus de qualification. Sur le site du CNU27 qui a cité Bénédicte, les différents onglets, vous trouvez toutes les statistiques sur les raisons des refus de qualification. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu. C'est pas très, très agréable de les présenter comme ça, c'est pour ça que Bénédicte vous a pas assommé de nombres et de chiffres, mais si vous voulez aller regarder pour ces informations, vous pouvez les trouver Et c'est assez intéressant, je pense, pour les doctorants de regarder un petit peu à quelle sauce ils seront mangés dans un an, dans deux ans ou dans trois ans. Je vous remercie. Donc, je coupe le micro. Hein.
Les microphones de tous les participants sont coupés. The microphones of all participants are cut.
Je vais poser une question. Donc, en fait, il y a plusieurs questions qui en gros disent est-ce que toutes les heures d'enseignement se valent? C'est-à-dire, un enseignement en IUT, est-ce que c'est valorisé autant qu'un enseignement en fac? Un enseignement dans une autre matière, est-ce que c'est valorisé autant?
Alors, c'est vrai que pour la qualification, ce qu'on attend, c'est qu'il y ait eu un enseignement en forme informatique.
Alors, c'est coupé. Il y a eu un problème là, il n'y a plus personne de nous entendre. Mais c'est parce que...
Est-ce qu'on nous entend?
Non, c'est le truc Sophia qui a lâché. Ouais.
On fait des petits bruits.
Ouais. En fait, tout le monde commence à... Alors, on va recommencer. T'as un lieu, ça?
Est-ce que les autres nous entendent ou pas?
Non, on dit que tout va bien, donc...
Bon, bah donc tout va bien.
Bon, bah, ça a l'air d'aller.
Donc sur les autres enseignements, donc c'est vrai que ce qui est attendu, c'est d'avoir une expérience d'enseignement en informatique. Alors, donc c'est vrai que quelqu'un qui n'aurait jamais enseigné d'informatique, bon voilà, c'est compliqué, surtout si cette personne en a eu l'occasion. Donc ça, c'est vrai qu'on veut une expérience d'enseignement en informatique. Après, c'est bien aussi d'avoir une expérience d'informatique à des informaticiens. C'est vrai que ce n'est pas la même chose d'enseigner de l'informatique à des gens, voilà, ce n'est pas le même niveau. Mais on ne demande pas du tout à ce que la totalité des enseignements soit là-dessus. Donc, un conseil, ce serait d'essayer de varier justement les enseignements, d'avoir un public à différents niveaux. En fait, pour refléter un petit peu ce que sera la variété du métier aussi d'enseignant-chercheur, puisqu'il y aura des enseignements potentiellement en licence, en master, en formation continue et autres. Donc, je dirais que si c'est de l'informatique, tout se vaut, quel que soit le public, mais si possible, essayez de diversifier.
Ok, donc après, une question qui revient souvent, c'est par rapport aux publications. Vous avez dit qu'il valait mieux privilégier la qualité à la quantité. Il y a quelques sites qui se demandent comment on juge et comment on sait quelles sont les bonnes revues et les bonnes conférences.
Alors ça, je dirais que c'est... Alors, ça, je pense que ça relève un petit peu de la responsabilité des encadrants de thèse. En fait, quand on fait de la recherche, on appartient à une communauté de recherche, enfin une ou plusieurs, et au sein d'une communauté, les bons endroits de publication sont connus. Donc, pour moi, c'est la source déjà la plus fiable. Après, on sait qu'il y a des sites qui font des classements de conférences et de revues. Ça peut être un élément indicatif aussi. C'est vrai que si on cherche à publier dans une conférence ou dans une revue qui n'est référencée nulle part, ça peut poser question. Mais il y a aussi des bonnes conférences et des bonnes revues qui ne sont pas forcément référencées. Donc, pour moi, le plus fiable, c'est vraiment de savoir où publient les gens de la communauté. Et c'est aussi ce critère-là qu'on regarde au moment de la qualification. C'est-à-dire que chaque dossier de qualification va être examiné par deux rapporteurs. Par contre, chaque dossier est discuté en session, devant la totalité du parterre. Et la décision de qualification ou non qualification est prise par l'ensemble. Et donc, quand on a des doutes justement sur des lieux de publication, on demande à l'Assemblée et en général, il y a des gens de la communauté en question qui peuvent nous dire oui, c'est une revue ou une conférence de bon niveau.
Et du coup, parmi cette Assemblée, il y a tout le temps à peu près quelqu'un d'une communauté, enfin de chaque communauté.
Oui, alors justement, alors c'est ça le gros travail qui est fait par le bureau du CNU au moment des préinscriptions, c'est ça. C'est en fait faire en sorte que le dossier du candidat soit examiné par des gens qui sont compétents dans son domaine. Et après, on est quand même assez nombreux. Et puis, on prend le temps aussi d'examiner les dossiers. C'est-à-dire que quand on a les dossiers examinés, on regarde ça m'est arrivé de, voilà, de me renseigner. Enfin, on va chercher, nous, en tant que rapporteur, on va chercher des informations sur les conférences, sur les revues.
Ok, merci. Alors, après, une autre question. Oui, il y a quelqu'un de Lyon qui demande si c'est possible d'intégrer l'enseignement supérieur après avoir eu une carrière dans le privé. Par exemple, alors, bon, je ne sais pas si du coup sa question entend de faire de carrière dans le privé ensuite de passer via cette commission, ou si par exemple ce serait possible de faire, d'avoir un poste de maître de conférence via une VAE, validation des acquis par l'expérience.
Alors, il y a la possibilité. Alors, je sais qu'il y a, là, il faut vraiment regarder sur le site Chianu, il y a des possibilités de dispense de la qualification, mais il me semble que c'est plutôt pour des diplômes étrangers. Ce qui est certain, c'est que pour avoir la qualification et pour passer sur le recrutement normal, il faut avoir un doctorat. Après, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs types de concours de recrutement maître de conférence. Ouais. Il y en a certains qui ne nécessitent pas forcément ça. Maintenant, vu la pénurie de postes, ce n'est pas forcément le plus facile. Par contre, quelqu'un qui a fait une carrière dans l'industrie et qui souhaite devenir enseignant-chercheur, c'est tout à fait possible.
Et donc, par contre, à condition s'il n'est pas d'âme, qu'il soit docteur.
Pour passer par le circuit classique. Donc, après, je vous dis, il y a certainement des passerelles qui sont possibles, mais c'est vrai que ça ne représente, c'est pas du tout une majorité des postes. Donc, c'est vrai que là, voilà, là l'objet aujourd'hui, c'était sur les docteurs. Mais par contre, au moment d'un recrutement, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant dans un dossier. Puisque maintenant, comme il y a de plus en plus de contrats de recherche à gérer, une expérience dans le privé avec une activité de R&D, ça peut être un profil intéressant.
Donc, Lyon qui nous demande, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots à propos de la mutation quand on est enseignant-chercheur?
Alors, quand on est enseignant-chercheur, il y a possibilité de faire des demandes de mutation. Alors, il me semble, ça je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que sur les établissements, on a le choix de considérer une demande de mutation comme... Enfin, de répondre à la demande de mutation avant de tenir compte des autres candidatures, ou de choisir de mettre la demande de mutation dans le pot commun des candidatures. Auquel cas, le candidat se retrouve à candidater finalement sur un poste au concours. Donc il me semble qu'il y a les deux possibilités. Mais ça, bon, là vraiment sur ces choses-là, je vous ai vraiment mis tous les liens. Je ne veux pas dire de bêtises parce que ce sont des règles qui ont évolué au fil du temps. Il y avait une période où les mutations étaient forcément considérées de façon séparée. Et là, il me semble que ce n'est plus le cas de façon systématique.
Okay. Une autre question similaire, le passage entre sections 26-27, 61-27.
Alors, c'est possible. Alors, d'ailleurs, il est possible de demander sa qualification dans plusieurs sections. Après le passage, on peut être qualifié donc, dans plusieurs sections si on le souhaite, hein, donc on n'a pas besoin officiellement de passer d'une section à une autre. Néanmoins, quand on va candidater pour un poste de maître de conférence en informatique, il faut être suffisamment convaincant sur le fait qu'on est apte à être enseignant-chercheur en section 27. Et donc si on a une qualification de cette section-là, eh bien c'est plus convaincant. Et nous, en tout cas au CNU 27, quand on a une demande de qualification qui arrive, on regarde si le candidat vérifie les conditions pour être qualifié en section 27, indépendamment du fait que par le passé, il ait peut-être été qualifié dans d'autres sections.
Est-ce que quelqu'un qui est qualifié dans une autre section peut candidater sur un poste 27?
Alors, il me semble que oui. Après, voilà, donc, c'est possible, mais tout dépend après. C'est vrai que quand on regarde les dossiers, peut-être qu'on est plus rassuré. Alors là, je ne parle pas du CNU, hein, là, c'est au niveau des concours de recrutement. Ça peut être un gage, ça peut être rassurant de se dire que la personne est qualifiée dans la section. Mais c'est tout à fait possible de candidater sur un poste d'une autre section.
Mais par contre, ça peut donner un petit coup de main pour obtenir un poste, ou ça peut rajouter plus de chances dans la balance d'être déjà qualifié pour une autre section, ou pas du tout?
Je pense que c'est différent. C'est différent, ça montre, à la limite, ça va être le cas de personnes qui sont à cheval sur plusieurs domaines, donc qui vont être par exemple au croisement entre les mathématiques et l'informatique. Donc après, ça va dépendre du type de poste que vous recherchez. Si vous voulez quelqu'un qui est 100% informatique, vous pouvez vous dire que c'est un profil qui ne correspond pas. Donc c'est pas forcément une stratégie gagnante. Je pense que pour ceux qui peuvent identifier leur communauté, leur section, c'est quelque chose de bien aussi.
Ok, donc une question de Reims, une question assez pratique. Un doctorant qui finit son doctorat en 2018, qui est qualifié en 2019 et qui postule en 2019. Quelles sont ses chances d'obtenir un poste de maître de conférence la même année ?
Eh ben, il va faire partie des candidats qui candidatent, et donc ben, la proportion, ce sera, je vous ai dit, c'était 12% de reçus par rapport au nombre de candidats. Donc il n'y a pas de... On voit des candidats qui ont des postes la première année où ils candidatent. Donc quand on est dans un comité de sélection, on regarde le potentiel aussi des personnes, et on sait bien que quelqu'un qui vient d'être docteur n'a pas les mêmes années d'expérience que quelqu'un qui a son doctorat depuis 2 ou 3 ans. Et sur les derniers comités de sélection auxquels j'ai participé, j'ai vu toutes les configurations. Mais en tout cas, on peut tout à fait avoir un poste de maître de conférence en étant docteur de l'année qui vient de précéder.
Merci. Marc, tu as une petite question?
Il y a beaucoup de questions qui en fait ont déjà eu des réponses. Alors, question de Clermont, il serait intéressant de revenir sur le métier, ce qui peut être différent d'une composante à l'autre et d'une université à l'autre. Donc peut-être nous rappeler quels sont justement les différents aspects du métier.
Alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on observe nous depuis qu'on regarde le suivi de carrière des enseignants-chercheurs. C'est vrai qu'il y a des contextes d'exercice qui vont être très différents selon que vous appartenez à un très gros labo ou un petit labo, selon que vous avez des tâches d'administration de l'enseignement qui sont plus ou moins lourdes. Après, j'ai l'impression que tous les cas sont différents. C'est un métier où, quand on va avoir des avantages d'un côté, on aura des inconvénients de l'autre. Donc, ici, on est dans un gros laboratoire. Ça a plein d'avantages en termes de visibilité. Ça peut avoir aussi, des inconvénients, plus de pression peut-être sur certains aspects. Donc après, ce qui peut changer, ça peut être le volume d'enseignement à faire. C'est vrai qu'on a constaté qu'il y a des endroits où les collègues arrivent à avoir uniquement leur charge statutaire ou avec assez peu d'heures sup, des endroits où il y a beaucoup d'heures complémentaires. Et c'est sûr que c'est plus compliqué quand c'est comme ça d'avoir une activité de recherche soutenue.
Mais d'ailleurs, justement, par rapport au niveau du poids entre quand on est maître de conférence, c'est quoi le poids entre l'enseignement et la recherche? Ça doit être normalement 50% parfaitement, ou est-ce que c'est quantifiable déjà en fait?
C'est difficile, et ceci dit, c'est même pas quand on démarre en fait. C'est toute notre carrière, ça va être un équilibre un peu instable qu'il va falloir gérer. Ça va dépendre des périodes, ça dépend aussi de la manière dont vos enseignements sont ventilés dans l'année. Donc là après, on peut faire des choix aussi. Il y a des collègues qui préfèrent concentrer leur enseignement plutôt sur un semestre et faire un peu plus de recherche sur l'autre. D'autres qui, au contraire, essaient d'équilibrer. Alors normalement, en début de carrière, maintenant, il y a possibilité pour des maîtres de conférence d'avoir une décharge d'enseignement pour être un petit peu protégé, pour pouvoir essayer de s'intégrer et puis aussi au niveau recherche. Et puis après, ça va dépendre un petit peu de chacun, parce qu'on a quand même tous notre équilibre et nos envies.
Alors, une dernière question, donc c'est sur l'avenir. Pensez-vous que le nombre de postes de maître de conf va baisser comme le nombre de postes de chercheurs?
Alors là, je regardais les statistiques, donc c'est vrai qu'il y a, 15 ans de ça, on avait beaucoup plus de postes, depuis quelques années, c'est stable. Je préfère ne pas faire de prédictions et juste faire des incantations et espérer que ça se maintienne au moins.
Ok, merci beaucoup Bénédicte.
Merci à vous.